Donc, bonjour à tous. Merci de vous être joints à nous cette fois-ci encore. Donc, aujourd'hui, on a le plaisir de discuter avec Dr. Louis Patry, qui est médecin spécialiste à la Clinique de médecine du travail de l'environnement au CHUM. Il est aussi directeur du programme de médecine du travail à l'Université de Montréal et travaille aussi en tant que médecin conseil en santé au travail à la Direction de santé publique de Montréal. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation,
Ça
Dr.
me fait
Patry.
grand plaisir de participer à cette entrevue.
Donc, si vous voulez bien, pour commencer, voudriez-vous nous parler un peu de votre pratique et de votre parcours?
Oh là là! Donc, mon parcours est un peu long. J'ai gradué en 1973. J'étais même pas né probablement à ce moment-là. Mais je vais vous dire, effectivement, je pense que c'est important de partager cette dimension-là. Moi, je devais aller en pédiatrie. Alors, avant de commencer ma pédiatrie, je pense que j'avais besoin de changement, j'avais besoin de goûter à la pratique. Donc, j'ai décidé à ce moment-là d'aller en pratique dans une région qui est dans le Bas-Saint-Laurent, à Rivière-du-Loup. On était un groupe de médecins qui a décidé de travailler uniquement à l'urgence. On a fait ça un certain nombre d'années, donc ça m'a plu. Il y avait un défi et ce défi-là nous a permis d'organiser un service dans un hôpital régional. C'était très dynamique, c'était fort intéressant. Mais je dois dire, comment je suis arrivé à la médecine du travail, en fait, à cette époque-là, c'est un peu par hasard. Donc, est-ce que je me destinais durant ma formation en médecine à la médecine du travail? Pas vraiment, mais j'étais un homme très curieux qui avait besoin de comprendre plusieurs choses. Alors, bonjour, il y a une personne du ministère des Terres et Forêts qui cherchait des médecins pour faire la surveillance des travailleurs exposés aux pesticides parce qu'ils faisaient des programmes d'arrosage contre la tordeuse du bourgeon d'épinette. Alors, pour moi, j'ai dit, quel défi? Maintenant, j'ai sauté à pieds joints sur ce défi. Puis, ça m'a permis, en fait, de commencer à travailler à l'évaluation, si on veut, des travailleurs et à la mise en place d'un programme de surveillance de la santé et de la protection de la population. Il faut dire que c'était assez intéressant. Il y avait trois bases à couvrir de toute la péninsule gaspésienne. Donc, nos clients, nos travailleurs étaient répartis à trois régions différentes, donc on faisait nos visites en avion. C'est quand même assez intéressant, c'est quand même assez original, mais ça m'a tout de suite ouvert à une problématique qui est fort importante, qui est l'utilisation des pesticides. Et on voit qu'aujourd'hui, c'est encore très présent l'utilisation des pesticides. On en parle régulièrement à la télévision ou même à la radio. Alors, à partir de ça, en fait, effectivement, ça m'a ouvert à cette dimension-là de la surveillance de la santé. Et par la suite, en fait, j'ai développé un intérêt pour la santé, si on veut, publique. Et j'ai commencé à travailler dans une direction de santé publique de cette région. Et là, je me suis toujours intéressé aux pesticides, mais c'était pour évaluer l'impact de la population qui vivait près des zones d'arrosage. Alors qu'on voit que j'ai essayé de joindre à ce moment-là la dimension individuelle clinique avec un aspect populationnel. Donc, effectivement, on a rencontré les populations, on a trouvé des indicateurs biologiques d'exposition, on les a suivis et ça m'a commencé à m'initier à la recherche. Donc, on voit qu'effectivement, ça devenait assez intéressant. Et là, je me sentais à l'aise dans ce côté-là. J'avais une pratique mixte, à la fois santé publique et une pratique clinique en cabinet. Mais mon intérêt pour le volet, si on veut, de la médecine et de la santé au travail a commencé à continuer de croître. Et je me suis dit, pourquoi pas aller chercher une formation complémentaire? Alors, c'était très difficile. Je suis allé passer un an à Paris. Alors, je me dis difficile, non pas que ce soit difficile de vivre à Paris, au contraire, c'était juste de se retrouver sur le banc des écoles. Mais ça, c'était fort agréable, intéressant. C'est qu'on était un groupe et j'ai fait une formation en physiologie du travail et en ergonomie qui m'a permis d'obtenir un diplôme d'études approfondies dans cette discipline. Et de rencontrer des gens qui venaient un peu partout, qui venaient soit de France, qui venaient, si on veut, aussi du Brésil. Donc, on était réellement un team fort intéressant et ça m'a ouvert énormément d'horizons et de partager et de mieux comprendre la pratique médicale dans différents pays. Alors, après ma formation, je suis revenu au Québec et là, j'ai commencé à travailler à l'Université Laval. Donc, ça m'a permis, en fait, de développer, de m'impliquer dans l'enseignement. Il y avait un baccalauréat en santé au travail. Donc, j'étais prof au niveau de l'ergonomie et de la physiologie. Il faut dire que dans les années 80, il y a eu une grande importance du développement de la santé au travail suite à une loi qui avait été adoptée en 79. Et là, il y avait différents programmes qui démarraient et des équipes qui devaient se préparer, qui devaient se mettre en place, et ça, la grandeur du territoire. Donc, il y avait des défis tout à fait pertinents. L'Université Laval avait développé, en fait, un programme conjoint de formation avec l'Université de Hamilton, et il y avait ce qu'on appelle une école d'été en santé au travail, et tout doucement, on a commencé à se former. Et moi, ça m'a permis, et l'Université Laval était toujours très dynamique, mais à cette époque-là, ils avaient des liens avec des universités africaines et, si on veut, du Moyen et du Maghreb. Alors, j'ai été enseigné en fait en Algérie, un stage de presque 3 semaines, 1 mois en Algérie, et par la suite au Zaïre. Le Zaïre n'existe plus maintenant, c'est le Congo démocratique, et j'étais là à la période du dictateur qui s'appelait Mobutu. Peut-être que ça ne vous dit rien, mais effectivement, avant, quand je suis arrivé là-bas en Afrique, au Zaïre, on m'a averti d'écouter, fais bien attention, parce que de rester à l'intérieur du campus, parce que c'est lui qui est sorti dernièrement, il est revenu avec un coup de machette sur la tête. Alors donc, il fallait être effectivement très, très prudent, mais ceci étant dit, ça a permis de mieux comprendre toute cette dynamique et les besoins des pays en voie de développement, si on veut, économique. Donc ça, c'est effectivement un point important dans ma carrière qui a été assez central. Et à la suite de cette formation, de cette implication dans l'enseignement, là, le Collège Royal a reconnu la spécialité en médecine du travail en 1984, mais les examens ont eu lieu en 89 et 90. Donc, je suis gradué en médecine du travail en 1990 au Collège Royal après avoir passé les examens, mais j'étais spécialiste au Canada, mais pas au Québec. C'est un peu étonnant, parce que la spécialité au Québec, elle a été reconnue uniquement en 2010. Alors, ce qui veut dire que j'ai travaillé comme médecin spécialiste pendant... je travaille toujours comme médecin spécialiste, mais en même temps, je travaille à la fois comme omni et comme médecin spécialiste. Et maintenant, moi, depuis la reconnaissance, en fait, je fais uniquement de la médecine spécialisée en médecine du travail. Et quand je suis arrivé, en fait, par la suite, après avoir travaillé à Québec en santé publique pendant quelques années, je suis venu à l'Université McGill. Il y avait un programme de formation à distance en santé au travail, où vous aviez des étudiants qui venaient de différents coins d'Amérique ou d'ailleurs, et on rencontrait les étudiants lorsqu'on faisait ce qu'on appelle des journées de formation plus intensives. Donc, j'ai été impliqué, et à ce moment-là, c'est que j'ai été en lien avec le Centre de recherche et développement international qu'on appelle le CRDI, et on a obtenu une subvention de 800 000 $, c'est quand même pas rien. Donc, encore là, on a fait de la recherche. Mais vous voyez que la recherche, c'est intégré dans ma pratique, mais de la recherche en modalité d'enseignement. Alors, toujours est-il qu'on avait eu de l'argent pour implanter un programme de formation à distance dans 5 pays africains. Il faut dire qu'à l'époque, ce n'était pas évident. Internet n'était pas... Dans les années 90, Internet n'était pas encore développé comme aujourd'hui. On devait transmettre, en fait, tous nos documents crayon-papier avec des objectifs d'apprentissage. L'utilisation de l'ordinateur n'était pas bien acquise et qu'on avait des problèmes dans le transfert. Aujourd'hui, c'est facile, on se parle, on pourrait organiser la même chose, on pourrait donner le cours ici et les étudiants seraient assis chez eux en Afrique. Mais on a effectivement implanté ce programme-là. On avait des étudiants, comme j'ai mentionné tout à l'heure, de 5 pays. Puis, on devait envoyer le matériel d'enseignement par la poste. Donc, on avait trouvé des créneaux importants. Souvent, le matériel était bloqué aux douanes parce qu'il y avait des vidéos. Ça demandait si les vidéos n'étaient pas des vidéos spéciaux à des fins autres que pédagogiques. Alors, donc, heureusement qu'on avait des bons contacts pour faire le dédouanement de tout ça. Donc, c'est une belle expérience qui m'a amené, en fait, à développer un côté international à ma pratique. Et à la suite de ça, en fait, ça m'a amené à m'impliquer au niveau de la Commission internationale de santé au travail, qu'on appelle la CIST, et j'ai été nommé sur le bureau de direction de la Commission internationale de santé au travail, qui voit, elle, au développement de la médecine du travail dans tous les pays du monde. Donc, on voit qu'effectivement, je suis parti effectivement d'une région périphérique au Québec, et là, je me suis retrouvé dans une région, mais là, la région couverte était le monde. Et tout ça, ça m'a amené énormément de contacts internationaux et ça m'a permis de comprendre toute la problématique de la médecine du travail dans les différents pays du monde. Pour continuer mon parcours, en fait, ça ne s'arrête pas là, mais je dois vous dire qu'à la suite de ça, je me suis impliqué beaucoup au niveau du Collège Royal. et ensuite aussi au niveau de l'Université de Montréal pour que l'Université de Montréal puisse obtenir un agrément pour démarrer un programme de spécialité en médecine du travail. Donc, on voit qu'effectivement, ça, c'est le parcours. Et par la suite, dans les années 99-2000, on a fait des efforts. J'ai collaboré beaucoup à l'implantation d'une clinique en médecine du travail dans la région de Montréal. D'abord à l'Université McGill et depuis 2013 à l'Université de Montréal au CHUM. Donc, c'est un parcours rapide. Vous parlez de sa vie, d'une période de 40 ans, à l'espace de même pas 30 minutes. C'est quand même... C'est court, mais quand même. Alors, rapidement raconter.
Merci beaucoup. Ben, en fait, justement, comme vous avez raconté votre parcours qui est quand même assez unique, puis aussi toutes les avancées qu'il y a eu au niveau de la reconnaissance de la spécialité et tout. Et en fait, je me demandais quelles sont les différentes trajectoires possibles pour accéder au programme de médecine du travail.
Bon, alors, donc, pour accéder au programme de médecine du travail, il y a quand même quelques trajectoires que je vais discuter avec vous. Pour parler des différentes trajectoires, j'aimerais juste peut-être dans un premier temps quand même définir la médecine du travail. Parce que la médecine du travail, c'est quand même elle se distingue des autres disciplines parce que c'est une discipline à visée préventive. On s'occupe bien des aspects cliniques, mais on s'occupe surtout des aspects préventifs. On ne peut pas lier qu'il n'y a pas d'aspect aussi administratif qu'on doit aussi s'occuper. Par exemple, lorsqu'un travailleur fait une réclamation, on doit s'occuper du suivi de son dossier pour qu'il puisse être indemnisé. On doit aussi s'intéresser à la reconnaissance, l'évaluation, le contrôle, la gestion et la réadaptation ayant trait aux maladies et blessures professionnelles. Ça, je pense que c'est un point effectivement important. Je vais vous donner tout à l'heure quelques exemples. Puis, on doit s'intéresser aussi aux effets à la santé ou les affections qui ont une incidence sur la capacité de travailler. Vous savez, quand vous voyez quelqu'un en pratique, il y a un problème de santé, que ce soit une blessure, vous allez probablement le mettre en arrêt de travail. Mais après ça, il faut le retourner. Si on veut le retourner de façon efficace, il faut comprendre son milieu de vie ou son milieu de travail pour faire en sorte que son état puisse s'améliorer et qu'il puisse offrir une prestation professionnelle tout à fait adéquate. C'est pour ça que je mentionne que l'aptitude au travail, qui fait partie de la médecine du travail, vous en faites, je suis certain que vous allez en faire durant votre pratique. Dans les voies d'entrée de la médecine du travail, en fait, faut dire que jusqu'de 1989 à 2006, la spécialité était une spécialité de 5 ans. En 2006, le Collège Royal avait décidé de modifier, en fait, et de faire ce qu'on appelle des troncs, par exemple, pour les différentes spécialités, pour permettre aux étudiants en médecine d'avoir une plus grande mobilité dans leur parcours. Parce qu'actuellement, les parcours sont très fermés. Vous commencez dans une discipline, vous devez faire presque les 5 ans. Il n'y a pas beaucoup de possibilités de changer en cours de route, ça vous le savez, et je pense que ça peut devenir assez préoccupant. Alors, ils ont décidé de mettre 2 voies d'entrée en médecine du travail. Une première voie qui est celle de la médecine interne et une deuxième voie qui est celle de la santé publique et médecine préventive. Donc, quelqu'un qui provient de la médecine interne, effectivement, le programme dure 5 ans, 3 ans dans le tronc commun et 2 ans par la suite dans le programme de sur-spécialité. Alors, donc, ça devient au total 5 ans. La même chose, par exemple, pour d'autres disciplines du tronc commun de médecine, de médecine interne. Au niveau de la santé publique, le parcours est quand même un peu plus long. Les médecins doivent d'abord passer les examens de leur spécialité primaire, qui est celle de santé publique et médecine préventive, et ensuite, ils peuvent appliquer dans le programme de sur-spécialité de 2 ans. On peut leur donner jusqu'à une année de crédit pour leur formation antérieure. Donc, la formation peut durer entre 6 et 7 ans, dépendant des compétences acquises lors de la spécialité primaire. Il faut dire que même si la spécialité en médecine du travail est reconnue depuis 2010 au Québec et à l'Université de Montréal, qui a un programme depuis 2011, on n'a pas réussi à attirer des candidats de médecine interne. Donc, je trouve ça un peu regrettable, mais je pense que les efforts que vous faites pour nous faire connaître vont certainement être bénéfiques. Dans la structure du programme de la médecine du travail, il y a quand même un volet académique. Il faut que le résident ou l'étudiant ait des connaissances dans les domaines suivants. Des connaissances en hygiène du travail, en toxicologie, en ergonomie, en épidémiologie, en biostatistique, en gestion et législation en santé au travail. Ça, c'est le volet académique. Donc, c'est des notions qui sont intéressantes. Il y a aussi un volet clinique, acquisition d'habiletés nécessaires à l'évaluation clinique, au diagnostic, dépistage, la surveillance et les traitements des lésions professionnelles. Puis un volet de la pratique, mais à ce moment-là, on doit faire en sorte que le résident puisse être exposé soit au milieu clinique, soit en entreprise, soit en centre de travail. Donc ça, c'est réellement, si on veut, la structure du programme. Pour en arriver en fait à la question que vous me posiez aussi, quand on a fini, quels sont les champs de pratique? Alors, vous avez des champs de pratique qui sont à la fois cliniques, milieu clinique et hospitalier. Vous pouvez travailler aussi en santé publique ou santé au travail. L'enseignement, la recherche. Il peut y avoir de la pratique en entreprise ou comme consultant autonome. Et vous pouvez aussi travailler dans le secteur médico-administratif et juridique. Par exemple, au niveau de la Commission de la santé et sécurité du travail, qu'on appelle la SNES, au niveau du tribunal administratif du travail. Donc, vous avez une possibilité de travailler dans le réseau public et une possibilité de travailler dans un réseau, je dirais pas privé, mais dans un réseau non public. Alors, donc, vous voyez qu'effectivement, il y a beaucoup d'éléments qu'on doit acquérir. C'est pour ça que le résident qui provient du tronc commun de médecine interne, c'est assez intéressant. Il y a les compétences cliniques. Ce qu'on fait pendant ces deux années-là, on va adapter sa formation en fonction de ses besoins pour rencontrer les exigences académiques. Celui qui viendrait de la santé publique et médecine préventive, il a probablement de bonnes connaissances académiques, mais il n'y a pas. Par contre, sa clinique est probablement moins forte. Alors donc, on va axer sur le volet clinique.
Définitivement. C'est quand même intéressant de penser que votre parcours, c'était vraiment différent de ce qui se fait actuellement parce que vous avez été comme un pionnier dans comme la reconnaissance.
Comme déjà un pionnier,
franchement. Mais alors, ça nous mène aussi à une question, puisque là, vous avez présenté un peu les différents parcours possibles. Mais on se demandait, dans votre pratique actuelle, de quoi a l'air une journée typique et quelles sont vos tâches cliniques versus... en matière de santé publique.
Il faut dire que notre mode de rémunération a une influence aussi sur notre pratique parce qu'on est payé à taux horaire. On n'est pas payé à l'acte. Ça, je pense que ça modifie également notre pratique. Donc, nos cliniques, en fait, on est une clinique de deuxième et troisième niveau. La clientèle, elle provient de partout au Québec et même de l'extérieur. Et c'est souvent pour des raisons cliniques pour lesquelles ces gens-là ont été investigués en médecine interne ou à autre chose, et on se pose une question, est-ce que l'état de santé peut être en lien avec un facteur professionnel ou environnemental? Donc, effectivement, ça demande des réponses qui nécessitent de la recherche et de la documentation. Alors, c'est pour ça que notre clinique n'est pas une clinique de débit, mais c'est une clinique pour laquelle on doit effectivement émettre des avis. Et des avis, ben, il faut les bâtir, puis il faut refaire un peu de littérature. Donc, on est un peu actuellement soit à suivre la recherche et la production des écrits sur les différentes problématiques qu'on rencontre. Alors, donc, tout ça, on est à l'intérieur, je dois dire que notre clinique au CHUM, parce qu'effectivement, pour les activités cliniques, on est à l'intérieur du département de médecine préventive et de santé publique. Comme j'ai mentionné, il y a des liens étroits avec le réseau du CIUS. L'école de santé publique, on est quand même 6 médecins qui travaillons en fait de façon partagée. Certains travaillent plus que moi dans le réseau public. Moi, je travaille presque uniquement à la clinique. Et d'autres travaillent aussi au niveau du tribunal administratif. Alors, on voit qu'on a une pratique variée. Mais à la clinique, en fait, moi qui est responsable de la clinique, je dois m'occuper de l'assignation des dossiers en fonction des intérêts de chacun des médecins, s'assurer qu'on répond bien aux demandes des médecins. Par exemple, un cas par exemple qui m'est arrivé hier, c'était quelqu'un qui avait eu il y a plus de 16 ans une décharge de plomb dans une hanche au niveau d'une cuisse. Et on me demandait, il y avait des problèmes de santé, est-ce que son problème de santé actuel peut être en lien avec les séquelles de la décharge de plomb dans la cuisse et près de la hanche? Alors donc, ça, la réponse, je ne peux pas dire ni oui ni non du premier coup. Donc, ça demande une certaine revue de la littérature. Ou encore, vous avez quelqu'un qui, comme j'ai eu récemment de la part de la médecine interne, une dame qui a développé une cardiomyopathie dilatée et pour laquelle on ne trouvait pas de cause. Alors, on nous envoie la personne. Et peut-il y avoir un lien avec un facteur professionnel ou environnemental? Et dans le cas présent, avec les solvants. Alors, vous voyez qu'effectivement, pour ce type de consultation-là, il faut aimer chercher, il faut aimer documenter Il faut aimer, en fait, essayer de bien comprendre. Et très souvent, là, on intervient avec la santé publique qui, elle, va aller faire des interventions dans le milieu pour documenter les substances auxquelles une personne est exposée et nous émettre un avis. Et à la fin, on va émettre, si on veut, une opinion sur le lien de causalité. Est-ce qu'il est probable que la maladie de monsieur ou de madame soit en lien avec des facteurs professionnels au travail ou dans son environnement? Alors donc, ça donne à peu près, et ça, la plupart des questions qu'on reçoit, c'est souvent un peu de cette nature. Ce qui fait que, une bonne journée, on peut voir jusqu'à 4 patients par demi-journée, sauf que le travail n'est pas terminé. Je pense que le travail commence par la suite et d'exercer un suivi. Donc, on est très complémentaire à la pratique médicale. Un autre intérêt pour la pratique clinique, d'exemple, on établit des liens avec certains services, entre autres au niveau des cancers professionnels, le mésothélium, qui est un cancer dû à l'amiante qui touche la plèvre, et tous les cas qui sont traités au CHUM sont référés pour évaluation des facteurs qui auraient pu contribuer, mesurer ou apprécier l'exposition. Si vous avez lu les journaux récemment, on a effectivement parlé de travailleurs de l'Université de Montréal dans la presse plus, ça a fait la manchette, et qu'effectivement, qu'on a finalement reconnu que leur cancer était en lien avec la présence de l'amiante dans le bâtiment. Alors donc, ça a été probablement le travail qu'on a fait qui a certainement contribué à la reconnaissance de ces lésions professionnelles. Donc, on est très, très, très complémentaires, en fait, avec la pratique clinique. Et nous, au niveau clinique, bien aussi, c'est surtout au niveau d'évaluation, des fois détaillé pour certaines problématiques, comme les gens qui seraient exposés à différents types d'outils, comme les outils vibrants ou les solvants. Alors, c'est un peu rapidement dit, mais une journée type, en fait, c'est une journée assez différente de ce que vous retrouvez dans un service. La journée n'est pas axée sur le débit, mais est axée sur l'approfondissement et la documentation des facteurs de risque dans le but d'essayer d'émettre une opinion sur le lien étiologique.
Je comprends bien, en fait, pour faire ces liens étiologiques, vous appuyez beaucoup sur la recherche. C'est quoi concrètement les techniques, les manières de faire justement pour établir ces liens causaux pour une exposition qui parfois date de plusieurs années avant, comme vous expliquez avec le plomb, et en même temps, genre que ça s'est développé sur vraiment plusieurs années de suite. En fait, comment on arrive à sortir des preuves sur ça?
C'est une bonne question, en fait. On n'a pas, dans le sens que, on sait que des personnes qui ont souvent, par exemple, une maladie se développe à travers le temps. Bon, l'intoxication chronique, il y a toujours des intoxications aiguës, mais il y a des intoxications chroniques. On connaît les manifestations cliniques qui peuvent se manifester suite à une exposition chronique. Donc, si on prend, par exemple, vous avez mentionné le plomb, comme le cas que j'ai eu, en fait, on vérifie selon le tableau clinique la symptomatologie, le type d'exposition, la durée d'exposition. Dans ce cas présent, ce n'est pas une durée d'exposition qui a été longue, sauf qu'avec le temps, les plombs se sont encapsulés dans ses muscles. Lorsqu'ils s'encapsulent, il n'y a pas de problème. Lorsqu'ils sont près d'une cavité, soit d'un liquide synovial ou autre, ils peuvent passer dans le sang. Donc, il faut faire un suivi, il faut faire cette documentation-là. Souvent, par exemple, si on prend les solvants, on va faire certains questionnaires pour apprécier le niveau d'atteinte, pour comprendre quelles sont les manifestations neuropsychologiques. À la suite de ça, on va documenter l'exposition, on va regarder la littérature, on va consulter. Si c'est un cancer, on va se référer en fait au Centre international de recherche sur le cancer. On connaît certaines substances qui sont cancérogènes. Et à la suite de ça, on émet un lien. Donc, le problème chez monsieur ou madame, il est très probable ou non qu'il soit en lien avec son exposition professionnelle. Donc, c'est toujours les mêmes éléments. Documentation de l'exposition, la durée de l'exposition, l'intensité de l'exposition, ce que dit la littérature. Et ce sont ces éléments-là et l'évaluation du milieu de travail. C'est une approche logique médicale. Souvent, on peut avoir certains marqueurs biologiques, mais on n'a pas toujours des marqueurs biologiques. Parce que les marqueurs biologiques qu'on peut retrouver, c'est souvent un indice d'exposition, mais les substances chimiques rentrent dans l'organisme, ils sont dans le sang, puis après ça, ils sont stockés dans les muscles ou les viscères, puis sont stockés éventuellement dans l'os. Alors donc, à ce moment-là, si vous prenez une prise de sang, vous ne le verrez pas, mais ça peut arriver à ce qu'il y ait des manifestations cliniques dues à une longue exposition à des dépôts qui sont dans les tissus mous ou encore au niveau des os. Alors donc, c'est souvent cette même démarche-là, c'est une démarche d'enquête. C'est pour ça que je trouve ça passionnant. Ça peut être insécurisant, par exemple, pour certains médecins, parce qu'ils ont, que, par exemple, certaines spécialités, on connaît tellement bien tous les aspects qu'on connaît comment bien le traiter. Mais nous, en fait, on est plus dans une démarche diagnostique et en fonction, lorsqu'on connaît mieux, on est plus capable d'appliquer un traitement. Si on prend, par exemple, les suivis qu'on fait pour l'intoxication au monoxyde de carbone, on ne s'occupe pas des aspects aigus. Ils nous sont référés pour l'évaluation des aspects neurocognitifs qui apparaissent à peu près 4 à 6, entre 2 à 4 semaines. Donc, on les évalue à ce moment-là avec une évaluation neuropsychologique avec certaines questions qu'on pose. On a développé un questionnaire et on les suit à cet égard-là. Parce qu'effectivement, on a constaté qu'il y a des manifestations au niveau du système nerveux central qui finissent par régresser. Mais malheureusement, je trouve qu'en médecine, on ne s'occupe pas suffisamment des effets à long terme. On s'occupe plus des effets à très court terme. Et que l'indice qu'on a d'une exposition, par exemple, un taux de carboxymodamine va revenir normal, mais il peut y avoir des effets qui vont apparaître quelques semaines après. Il y avait un résident qui n'est pas un résident ou un étudiant qui était venu avec vous, ils avaient l'air des Sherlock Holmes. Donc, il faut aimer les défis. Et effectivement, en ce qui concerne le traitement, ben, on s'associe en fait, avec les gens de médecine interne ou autre pour l'application du traitement au niveau de la personne. Mais l'application du traitement, c'est comme l'asthme, en fait. La première chose à faire avec l'asthme, c'est d'éliminer l'exposition. Alors que nous, effectivement, pour l'aspect thérapeutique, c'est de faire en sorte que le milieu, on ne retrouve pas d'agents contaminants ou qu'on puisse corriger à la source. Alors donc, on est un peu intermédiaire entre ceux qui vont sur le terrain pour corriger le problème. Et aussi, on doit effectivement évaluer l'état de santé d'une personne pour savoir si elle a des séquelles d'une telle maladie, pour faire en sorte que lorsqu'elle va retourner au travail, qu'elle puisse avoir des conditions qui soient propices à sa réinsertion et propices aussi à ses capacités fonctionnelles. Donc, c'est une stratégie ou une démarche un petit peu différente de celle habituelle pour les autres spécialités.
Ça donne une bonne idée d'à quel point l'aspect enquête puis suivi est important dans la médecine du travail. Puis par curiosité, je me demandais, ça prend combien de temps à peu près travailler sur un dossier puis suivre le dossier?
Tout dépend de la question. Les entrevues qu'on fait sont à peu près d'une heure pour les nouveaux patients. Donc, à la lumière de ça, effectivement, on doit, et après ça, il faut établir des liens, soit avec faire un signalement santé publique, qui, elle, va aller sur le terrain. Puis, on va suivre la personne pour voir comment évolue sa santé. Mais si on prend l'évaluation pour un cas avec exposition au solvant, vous avez les questionnaires, passer tous les tests qu'on fait faire, ça peut être effectivement assez long. Mais à ce moment-là, l'infirmière nous aide. Puis, on demande souvent aux gens, quand c'est possible, à la maison, de nous décrire, de nous faire toute leur histoire professionnelle et de nous donner des informations sur les produits auxquels ils sont exposés, de nous apporter les fiches signalétiques. Les fiches signalétiques, ce sont des fiches qu'on peut retrouver qui nous donnent des informations sur les différents produits utilisés et des effets à la santé. Donc, je ne peux pas vous dire, il y a des dossiers qui sont plus courts, il y a des dossiers qui sont effectivement plus longs. Mais comme on est en deuxième ou troisième et même parfois quatrième ligne, à ce moment-là, ça peut varier comme durée. Comme la question du Parkinson et les pesticides, il faut mesurer l'exposition, il faut regarder l'intensité de l'exposition et ensuite émettre une opinion.
Puis en fait, justement, je me demandais, parce que par exemple, ça, je pense à la piscine, vous avez mentionné des personnes qui sont par exemple exposées à de la vibration ou genre le Parkinson avec les pesticides. Puis en fait, je me demandais, est-ce qu'il y a une patientèle type, est-ce qu'il y a des systèmes qui sont plus touchés que d'autres?
Il y en a beaucoup. En fait, au niveau des pesticides et les insecticides, si on veut, pas les pesticides, je pense, les solvants, ils sont lipophiles, alors ils aiment bien le système nerveux central et qu'à ce moment-là, ça va affecter le système nerveux central, les solvants. Certains produits chimiques, les métaux, vont affecter le système nerveux périphérique. Par exemple, si on prend le plomb, c'en est un. Le système nerveux central aussi, comme le manganèse, qui va donner souvent une maladie qu'on appelle le Parkinson-like syndrome, qui est semblable à la maladie dégénérative qui est celle du Parkinson, mais ça touche effectivement les ganglions de la base. Alors donc, il y a ces manifestations-là. Il y en a d'autres, en fait. Les produits chimiques, c'est souvent le système, si on veut, le système nerveux. les substances, les agents physiques, que ce soit le froid, les vibrations segmentaires, les gens qui manipulent des outils vibrants, ça va donner des atteintes à la fois vasculaires, neurologiques et musculaires. Et ça va donner ce qu'on appelle des crises de doigts blancs. Les gens vont effectivement avoir des épisodes de doigts blancs qui est la composante vasculaire. Il y a des difficultés. J'ai vu un monsieur qui travaillait avec des outils vibrants dans une mine. Puis, il y avait une soixantaine d'années, il était tellement affecté qu'il ne pouvait même plus attacher les boutons, attacher sa chemise. Il n'était plus capable de tenir les boutons entre ses deux doigts ou prendre des pièces de monnaie dans ses mains. Donc, ça, c'est des états qui sont effectivement avancés. Il peut y avoir d'autres agents physiques, que ce soit les radiations ionisantes. Au niveau environnemental, on sait bien que le radon, je pense que vous avez entendu parler du radon dans les maisons, qui est un cancérogène, qui est la deuxième cause de cancer du poumon après le tabac. Alors donc, c'est donc des facteurs environnementaux qui sont là. Souvent, les manifestations, lorsqu'ils présentent, souvent la maladie est déjà bien installée. Donc, il y a différents agents musculosquelettiques, mais c'est souvent en lien avec les efforts au travail, les postures contraignantes, les mouvements répétitifs, les postures assises prolongées. Ça, c'est réellement un problème qui est important. Alors donc, ça dépend en fait des facteurs. C'est pour ça qu'on doit effectivement regarder les types de facteurs auxquels les gens sont exposés. Il y a une très bonne documentation sur les atteintes qu'on peut s'attendre à retrouver. Et maintenant, on essaie dans un premier temps de préciser le diagnostic et l'ampleur de l'atteinte. Et deuxièmement, de se prononcer sur le lien de étiologique.
Donc, j'imagine que la patientèle typique, c'est plutôt déterminé par des types d'exposition qu'on revoit plus souvent.
Plus, oui. Puis la clientèle est à la fois, il y a autant d'hommes que de femmes qu'on peut voir. Et que dans les travaux manuels, en fait, effectivement, dépendant des travaux manuels, manipulation d'outils vibrants, c'est plus souvent chez les hommes. Par contre, les travaux manuels qui sont plus au niveau manipulation d'objets fins, quoi que ce soit, c'est souvent aussi chez les femmes qui rencontrent. Mais un homme qui ferait la même job aurait le même problème. On ne peut pas dire qu'une maladie est liée au sexe. Au contraire, c'est qu'elle est liée plus à la tâche. Que si on met un homme ou une femme dans les mêmes conditions, il est fort probable qu'on se retrouve en bout de ligne avec la même problématique. D'autres problématiques qui sont en émergence, qu'on ne peut pas ignorer, c'est toutes les problématiques qui touchent la santé mentale. On voit que le travail est devenu actuellement moins physique, mais plus travail intellectuel. Alors, les problèmes se sont déplacés des muscles vers la tête. Puis, on voit qu'effectivement, les gens se retrouvent dans un phénomène où on a à maîtriser les nouvelles technologies pendant des heures, de très longues heures. On a aussi très fatigant pour la tête, parce que la tête elle doit se reposer. Elle n'est pas capable de traiter de l'information continuellement. Le cerveau s'épuise et ça va amener souvent des problèmes. Et il peut y avoir aussi des nouvelles modalités d'organisation du travail, avec l'exemple avec la COVID. La COVID est un point important. Les gens travaillent plus maintenant à distance ou encore il y a des surcharges de travail. L'ordinateur amène des contrôles aussi sur les différentes tâches. Donc, ce n'est pas effectivement simple. Moi, je dirais que la médecine du travail est toujours modulée par les changements techniques, sociaux et économiques. Donc, il va toujours y en avoir des problèmes de santé liés au travail et à l'environnement parce que les conditions de travail changent, les problèmes changent.
Mm-hmm. Puis, ça, vous nous avez partagé quand même beaucoup d'aspects intéressants de pratique. On va peut-être vous poser une question au sujet aussi des aspects qui vous plaisent peut-être moins. Est-ce qu'il y en a?
Il y a des aspects qui me plaisent moins, oui. C'est les aspects, en fait, avec des aspects souvent plus administratifs. Par exemple, je comprends très bien qu'on a un rôle important à jouer lorsque les gens veulent obtenir des indemnisations. Mais actuellement, on fait des évaluations quand même très complètes et très souvent, les décisions médicales sont contestées. Il y a un autre avis au niveau du médecin, puis là, on s'embarque dans une cascade de contestations. Et ça, je trouve ça effectivement lourd. Ça, c'est probablement le facteur lourd qui est le plus difficile. À part ça, je ne vois pas réellement d'autres problèmes. Il faut être... Bien, on vit actuellement un problème important. J'ai oublié tout à l'heure toute la question des facteurs biologiques avec toute la question de la COVID, effectivement, qui est un agresseur, si on veut. Que ce soit, on parlait tout à l'heure des agresseurs. J'avais oublié cet agresseur-là qui joue un rôle important actuellement, qui modifie notre vie, à la fois professionnelle et notre vie personnelle. Et ça, c'est pas une période, si on veut, facile. Soutenir les travailleurs, ce n'est pas toujours simple non plus dans leur processus de réadaptation. Mais le plus difficile, c'est les questions des contestations des rapports qu'on produit, qu'il faut éventuellement tous se justifier. Et il y a bien des médecins aussi qui mettent de côté le volet de les aspects, si on veut, législatifs ou les aspects liés à l'indemnisation, où des fois, ils décident de voir moins de travailleurs à cause des papiers, entre guillemets, à compléter. Côté positif, je pense que j'en ai parlé quand même assez bien.
Oui, en fait, justement, vous avez aussi beaucoup parlé de la recherche puis de la part intégrante que ça occupe un peu dans la pratique. Et en fait, je me demandais en fait, à quel point c'est important. Est-ce que tous les médecins de médecine du travail font de la recherche? Puis aussi, en fait, vous avez parlé des pesticides et de l'intérêt que vous avez pour eux. Est-ce qu'il y a d'autres axes de recherche que vous avez étudié?
Il y a des axes de recherche. Bon, je parlais tout à l'heure des axes de recherche qui étaient sur les modalités d'enseignement, qui nagent plus au niveau pédagogique. D'autres recherches d'enseignement avec certains, effectivement, on a mentionné tout à l'heure les pesticides. En médecine, en fait, il y a souvent ce qu'on appelle des problématiques de santé en émergence. Les cas cliniques vont toujours précéder les cas qu'on va avoir suffisamment de données pour établir un lien de causalité ou avoir des données probantes. En médecine du travail, dans bien des cas, compte tenu des modifications des conditions de travail, on n'a pas toujours des données probantes pour essayer d'établir. Donc, on est continuellement un petit peu en recherche. Il y a des nouvelles substances chimiques qui sont découvertes. J'ai fait participer récemment à un projet de recherche avec ce qu'on appelle les perturbateurs endocriniens. Et ça, il y avait une recherche, des gens qui étaient exposés dans des secteurs où on fait du recyclage, exposés à différents métaux. Donc, ça mène d'autres pathologies. On regarde cette dimension-là. Il y a eu d'autres cas, effectivement, où, dépendant à quoi les gens sont exposés, il va y avoir les nanoparticules, ce qui va amener certains problèmes. On ne le sait pas, mais on est toujours à l'observation, à la documentation clinique. Si on voit quelques cas, bon, on essaie de voir si le problème est plus large. Puis après ça, on essaie de se faire aider par d'autres collègues pour avoir étudié des groupes de personnes qui sont exposées aux mêmes facteurs. Est-ce qu'il y en a qui l'ont développé, d'autres ne l'ont pas développé, etc. Donc ça, c'est un point important qui nous préoccupe et qui est souvent l'objet de recherches. On aimerait bien en faire plus, mais on est une petite équipe, mais on doit s'associer avec les gens. Je vais vous dire, recherche, il y en a une actuellement qu'on fait, qui va peut-être aboutir à une recherche, mais on a eu en fait, ça c'est plus au niveau environnemental, où les gens d'une région se sont plaints des problèmes avec l'alimentation en eau. L'eau était trop riche en manganèse. On sait que le manganèse peut avoir des effets, surtout pour les enfants, même si c'est un nutriment, mais aussi exposé à de trop fortes doses, ça peut nuire au développement neuropsychique. Alors donc, on s'associe à ce moment-là avec soit la santé publique, soit avec les universités pour mieux documenter ces effets-là à la santé, essayer de modifier les normes. Donc, on est continuellement un peu à l'affût de problématiques et d'interagir avec des gens qui peuvent aller encore, avec qui on va s'associer pour développer la recherche de façon plus approfondie.
Mm-hmm. Donc, d'après ce que vous dites, vous avez mentionné aussi qu'il y a comme un lien intrinsèque entre la médecine du travail et la santé environnementale. Je ne sais pas si vous voudriez parler un peu plus de l'aspect santé environnementale de votre pratique, mais aussi, est-ce que, alors, en tant que médecin du travail, vous considérez que vous avez une responsabilité dans comme, l'activisme environnemental?
On a une responsabilité. En fait, la médecine du travail est une discipline environnementale, dans le sens que la médecine environnementale, c'est-à-dire c'est une maladie qui s'intéresse aux facteurs qui peuvent contribuer au développement de maladies. On a parlé des facteurs professionnels, mais il y a des facteurs environnementaux qui sont non professionnels. Je vais donner l'exemple du manganèse, par exemple, qui affecte la santé d'une population. Donc, on va essayer d'en arriver avec des normes. Il y a de plus en plus, par ricochet, en fait, on s'intéresse à la médecine environnementale clinique, Parce que on aimerait bien qu'effectivement que la spécialité médecine du travail devienne aussi médecine du travail et de l'environnement. Il y a des pourparlers actuellement au niveau du Collège royal à cet égard, surtout pour les aspects cliniques. Il y a toute la problématique, on est dans un pays froid, on voit bien aujourd'hui et hier, et qu'il y a aussi des problèmes de qualité de l'air intérieur. La qualité de l'air intérieur, en fait, dans les résidences. Il y a des problèmes de qualité de l'air intérieur, on voit aussi dans les écoles. La problématique des enfants, la recirculation de l'air dans les écoles, pas de système de ventilation, etc. Nous, ça fait 20 ans qu'on voit des professeurs à la clinique qui sont avec des problèmes de qualité de l'air à l'intérieur de nos écoles. Ça ne date pas effectivement d'hier. On va être préoccupé aussi par des problématiques environnementales. Lorsque vous avez une usine dans un secteur qui va émettre dans l'air des contaminants chimiques, donc tôt ou tard, il y a effectivement des effets à la santé qui vont se manifester. Donc, on est appelé à intervenir dans des cas semblables. Il y a la question des changements climatiques aussi. Je pense qu'actuellement, en médecine, on ne peut pas ignorer la question des changements climatiques qui va amener probablement un déplacement de certains insectes vers le nord avec certaines maladies. Il y a des zones qui vont devenir plus inondées. Il y a effectivement d'autres facteurs. Par exemple, on peut essayer de passer soit des lignes à haute tension, on peut soit éventuellement passer des pipelines ou quoi que ce soit. On voit que les gens se lèvent. On veut installer, par exemple, une mine à tel endroit donné. Est-ce que cette mine-là va avoir des impacts au niveau des individus et au niveau d'une population? Je pense qu'effectivement, on ne peut pas ignorer. On voit tout bien les conséquences de l'amiante. Il y avait eu quand même une crise de l'amiante dans les années 40-50. Puis, on voit effectivement que toute la région de Thetford Main, maintenant, Asbestos, qui a changé de nom, où les gens étaient exposés à des poussières d'amiante, on sait qu'effectivement, ces facteurs-là, je pense que les médecins ont un rôle important à jouer dans une genre de veille. On appelle ça une approche sentinelle. Le médecin, souvent, c'est lui qui va avoir une approche sentinelle, dans le sens que, je viens de voir, j'ai un médecin qui s'installe dans une région, il devrait toujours porter un intérêt pour le type d'usine dans cette région-là. Parce qu'il va certainement, tôt ou tard, avoir des personnes qui peuvent avoir des effets à la santé liés aux émanations de certains produits chimiques ou d'autres conditions de travail. Ça, c'est ce qu'on appelle l'aspect environnemental. Donc, il est capable d'établir des interconnexions entre ceux qui font un volet clinique, médical, comme nous on le fait, avec une interaction avec les gens qui s'intéressent plus à la dimension populationnelle. Pour essayer de documenter de façon plus approfondie d'en arriver à changer les normes. Donc, on ne peut pas, c'est intimement lié à la pratique environnementale, mais on est de plus en plus préoccupé. Des gens ont des inquiétudes. Bon, on vient d'installer, bon, il y a des changements, des champs électromagnétiques. Qu'est-ce que ça fait? Est-ce qu'on a suffisamment de documentation? Les gens peuvent développer des syndromes de polysensibilité chimique à la suite d'exposition ou à suite d'autres facteurs. Quelle est la composante physique à travers tout ça? Quelle est la présence qui provenait soit de nature psychologique à travers tout ça? On ne le sait pas. Sauf que quand une personne souffre, elle souffre. Il faut la traiter. Alors, on voit qu'effectivement, tous ces éléments-là sont préoccupants. Je pense que la médecine doit aussi évoluer en fonction des conditions dans lequel on vit. La médecine doit être aussi capable de développer aussi un volet qui va s'orienter plus sur les aspects, si on veut, de prévention, de correction, parce que le traitement n'est pas uniquement que médicamenteux. Le traitement est aussi, quand on fait la médecine du travail et de l'environnement, il faut agir sur les facteurs qui sont en amont ou agir sur les déterminants de la santé. Les gens qui nous consultent, en fait, je vous dirais ici, que les problèmes de santé, le travail et l'environnement, c'est 15 % des consultations. Donc, c'est pas minime, là. Puis, ils ont souvent des présentations qui ne sont pas spécifiques. Alors, donc, il faut effectivement tenir compte des conditions de travail. Il faut tenir compte des conditions de vie environnementales. Alors, vous voyez que les nouvelles technologies aussi amènent différents types de problèmes. Les nouvelles organisations amènent différents types. C'est tout un des facteurs qui sont davantage de nature plus large. Alors, je pense que oui, la médecine doit aussi s'intéresser de plus en plus aux facteurs environnementaux. Est-ce qu'on était des précurseurs à travers tout ça? Je pense que oui. mais il faut qu'on essaie effectivement de vendre. Ce n'est pas une question de vendre son produit, au contraire, c'est d'essayer de réfléchir à des nouvelles façons de pratiquer la médecine, d'intégrer des éléments. Déjà, si en médecine, ce qu'on peut voir, c'est que les gens s'intéressaient davantage aux conditions de travail, à des questionnaires qui sont plus détaillés pour essayer de documenter les expositions, ça serait déjà ça serait un plus.
Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous faire découvrir ça. Moi, j'aurais une dernière question, en fait, un peu plus large, par rapport à, en fait, si vous aviez des conseils pour nous autres étudiants du préclinique, puis, en fait, pour les étudiants qui voudraient justement s'exposer davantage à la spécialité qui aurait un intérêt, comment est-ce qu'on peut...
Je pense que c'est d'être engagé dans les différentes problématiques, soit sociales ou environnementales, ou professionnel. Je pense qu'il faut quand même suivre tout ce qui se passe dans notre milieu. Donc, faut avoir de l'intérêt pour ces aspects-là. Il faut avoir de l'intérêt aussi pour la documentation des facteurs, avoir de l'intérêt sur l'impact des changements climatiques, de l'impact aussi au niveau de tout ce que ça peut avoir au niveau des habitations. Tout ça, c'est un point effectivement important. Concernant vous, qu'est-ce que vous pouvez faire de façon... Bien, je pense que lorsque vous voyez un patient, c'est de vous intéresser davantage à ses conditions de vie ou de travail. Et ça peut être effectivement très riche comme information, surtout pour des cas qui sont plus complexes, pour des cas, en fait, qu'on ne trouve pas la cause, que vous avez une présentation atypique. On peut trouver des facteurs intéressants. Donc, on commence à intégrer cette dimension professionnelle et environnementale. D'abord, dans l'évaluation des patients qu'on fait, regarder ce que dit la littérature, ça serait déjà un bon point de départ.
Je pense que ça avait vraiment donné un bon résumé, puis un bon walkthrough de ce que consiste la médecine du travail. Donc, merci beaucoup, Dr. Patrick, d'avoir pris le temps de nous rencontrer puis de parler un peu du programme. Ça nous rappelle aussi à quel point c'est important de garder aussi en tête les facteurs d'exposition puis l'importance du milieu, de l'environnement dans les conditions médicales qui peuvent être développées. Et merci beaucoup justement de nous avoir fait part de cette perspective-là.
C'est moi qui vous remercie. Alors, merci encore. Si vous avez éventuellement d'autres questions, ça me fera plaisir d'y répondre. Bonne fin de journée.